Era pessoa de quem viveu a Revolução. Ouça duas histórias por hora, todo dia. Só na rádio que nos liga.
Entramos na segunda parte do Alfa 1013 com as notícias da Olívia Vaz. Mais uma vez, bom dia, Olívia.
Olá, muito bom dia, Didi. Bom dia a todos. Pelo menos 5 migrantes, incluindo uma criança, morreram durante uma tentativa de atravessar o Canal da Mancha na última noite, isto no norte, segundo fonte policial. Em 2023, 10 imigrantes perderam a vida também ao tentarem fazer o mesmo. Este ano foram 29.437 os migrantes a chegar ilegalmente à costa inglesa, em comparação com os 45.770 em 2022. Um ano recorde, de acordo com os dados do Ministério do Interior Britânico, isto quando o Parlamento Britânico aprova na última madrugada, o projeto de lei que permite que os requerentes de asilo que entraram ilegalmente no Reino Unido sejam deportados para o Ruanda. Em 2023, as despesas militares mundiais terão ultrapassado os 2.400 mil milhões de dólares, de acordo com o último relatório do Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo. Este é o maior aumento anual desde 2009. Segundo este relatório, os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Índia e a Arábia Saudita são os maiores gastadores de armas do mundo. Na Rússia, o aumento de armas foi de 24% para 109 mil milhões do ano passado. Trata-se de um aumento de 57% numa década. Representa atualmente 16% das despesas totais do país. Em 2023, Moscou terá gasto 5,9% do seu PIB com o exército. A guerra na Ucrânia reativou também o mercado europeu de armas em geral, e os dos países membros da NATO em particular. No ano passado, 31 membros da Aliança Atlântica gastaram 1.134 mil milhões de dólares, ou seja, 55% das despesas militares mundiais. Os Estados Unidos continuam a ser assim o maior contribuinte financeiro da Aliança, com um montante de 916 mil milhões de dólares. O ano passado, mais 2,3%. No futebol, lembrar ainda o resultado do encontro de ontem entre o Benfica e o Farense, vitória dos encarnados por 3-1, encontro que encerrou a 30ª jornada da Primeira Liga de Futebol. O Benfica mantém-se assim a 7 pontos do líder, o Sporting. Apesar da vitória no final, houve assobios e o técnico encarnado não compreendeu.
I'm not happy about the performance of our supporters.
Não estou contente com o desempenho dos nossos adeptos. Na minha opinião, é demasiado. Não entendo como há muita gente descontente. Perdemos jogos e falhámos golos, mas vejo que a equipa dá sempre tudo e os jogadores não merecem ser ofendidos. Isto não é aceitável e para mim não são benfiquistas. Nós precisamos dos adeptos que amam o Benfica e que apoiam a equipa e não desta gente. Espero que fiquem em casa.
Who support the team, and we don't need these people. I hope they stay at home.
E do lado do Farense, José Mota admite que o Benfica esteve melhor.
Sabíamos que o Benfica estava a jogar de uma forma muito concentrada, muito organizada, naturalmente ganhou. Não queríamos este resultado, como é óbvio, mas temos que reconhecer que muitas vezes os adversários foram melhores, e neste caso o Benfica hoje foi melhor que o Farense.
Benfica venceu o Farense por 3-1, foi o encontro que encerrou a 30ª jornada da Primeira Liga de Futebol. Eu volto aqui ao meio-dia, até mais logo.
Até mais logo, Olívia.
Alfa, a rádio que nos liga o tempo todo. A informação do tempo com a BB Gaz.
Faites confiance à BB Gaz à Créteil pour l'installation d'une climatisation dernière génération. Prenez dès maintenant rendez-vous pour un devis gratuit sur bbgaz.fr.
Graus logo à tarde em Paris, segundo Météo France, 10 em Lille, 11 em Estrasburgo, 11 em Lyon e 12 em Nice. E segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estão atualmente 22 graus em Viana de Castelo, 21 no Porto, 24 em Braga, 19 em Bragança, 21 em Castelo Branco, 23 em Leiria, 24 em Lisboa e 25 no Sul, em Faro. São 11 horas e 4 minutinhos. Daqui a pouco vamos estar à conversa com o historiador Yves Leonard. Fique ligado.
Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Vem dançar comigo. Vem esquecer o que passou. Eu perco-me.
Alfa. Estamos ligados.
Rádio Alfa.
Carrefour Énergie.
Quand vous me dites « l'électricité c'est trop cher »,
je vous dis juste qu'avec Carrefour Énergie, votre électricité est 20% moins chère que les tarifs réglementés. Et on vous offre 50 euros en carte cadeau Carrefour. Et c'est à prix bloqué pendant un an sur energie.carrefour.fr. Carrefour Énergie, service opéré par Octopus Énergie par rapport au prix du kilowattheure du tarif réglementé au 1er février 2024, hors toute taxe. Voir conditions sur energie.carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le Théâtre de la Ville célèbre les 50 ans d'une démocratie dans l'espace européen. Une journée de fête et de musique portugaise pour célébrer le 50e anniversaire de la Révolution des œillets. Avec Maria Reis, une des artistes les plus convoitées de la scène musicale, interprète les chants d'intervention portugais des années 60 et 70. Africa Negra, un des groupes les plus anciens et mythiques, avec ses mélodies et le mélange de rythmes puxa et rumba. La pianiste Joana Gama et la chorégraphe et chanteuse Tania Carvalho démembrent et étranglent poèmes et chants traditionnels. Rendez-vous le 25 avril à 20h au Théâtre de la Ville à Paris. Retrouvez tout le programme sur théâtredelaville-paris.com. La FNAC Paris-Saint-Lazare, en partenariat avec Radio Alpha, vous invite à célébrer le 50e anniversaire de la Révolution des œillets du 22 au 28 avril. Au programme, des rencontres, une exposition photo et un showcase de fado. Pour en savoir plus, ça se passe sur le site l'éclaireur.fnac.com. L-E-C-L-A-I-R-E-U-R.fnac.com et celui de Radio Alpha. On vous attend avec impatience à la FNAC Saint-Lazare.
FNAC. Se procura ajuda para a sua mudança, Transportes Beleza tem a solução certa para si. Transportes Beleza tem uma equipa rápida de profissionais especializados em mudanças nacionais e internacionais, trabalhando ao mais alto nível de precisão e qualidade, disponibilizando um serviço total de remoção da sua casa e com entregas em todos os destinos na Europa. Peça já o seu orçamento em transportesbeleza.pt. A sua mudança começa com um clique.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et pour notre anniversaire... Du 2 au 29 avril, on va vous gâter.
Ah oui? Pourquoi? C'est aussi mon anniversaire?
Eh oui! Chaque jour, foncez à notre borne de jeu en magasin pour tenter de gagner des e-cartes cadeaux jusqu'à 50 euros. Et en plus, avec ma carte Netto, tentez de gagner un séjour en famille.
Ne m'en dites pas plus, je fonce chez Netto.
Netto, on gagne tous à payer moins cher.
Netto! Jeu avec obligation d'achat dès 25 euros. Règlement sur netto.fr.
Depuis 3 ans, plus de 1300 salariés d'Amazon ont bénéficié de formations diplômantes reconnues par l'État. Anna a suivi une formation de technicien de maintenance. En seulement 2 ans, elle est passée de préparatrice de commandes à technicienne diplômée. Désormais, elle porte une combinaison et un casque de chantier. Et sa fille trouve qu'elle ressemble à une super-héroïne. Chez Amazon, nous sommes résolus à favoriser les formations diplômantes pour les salariés des sites logistiques, sous conditions d'éligibilité.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, il paraît que vous avez d'excellentes asperges françaises en bottes.
Tout à fait, et c'est un vrai délice de saison.
Ok, mais pourquoi en bottes? C'est le printemps, moi j'ai sorti les sandales.
Vous pouvez même les déguster en tongs si vous voulez.
Du 24 au 27 avril chez Leclerc, la botte de 500 grammes d'asperges blanche-violette origine France est à seulement 3,70€.
Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 7,40€ le kilo. Catégorie 1, calibre 16-22 mm, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Là, c'est le four avec le gâteau, là, c'est le tiroir avec les bougies, et là, c'est moi qui m'entraîne à chanter.
Joyeux anniversaire!
Et là, ça devient gênant. En avril, c'est l'anniversaire de Cuisinella. Bénéficiez de jusqu'à 1500€ d'avantages offerts.
Cuisinella, là, c'est chez vous.
Cuisinella, la la la.
Du 2 au 27 avril 2024, jusqu'à 1500€ TTC d'avantage hors pause livraison sanitaire et électroménager, voire conditions en magasin participant.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, c'est cuit.
Pour Lidl?
Eh non, pour nous et pour les crevettes. En ce moment, la barquette de 100 grammes de crevettes ice et décortiquées au citron et à la coriandre est à 2,30€ au lieu de 2,99€, moins 23%.
2,30€ les crevettes.
Eh oui, on est mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 23€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mercredi 24 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Bière Pélican, présente. Nous sommes actuellement en présence d'un remarquable spécimen de bière Pélican. Observez sa couleur dorée. Pas de doute, c'est bien une bière blonde Pélican. Pour révéler son goût généreux, la bière Pélican amorce son rituel de service. Un retournement de sa bouteille qui permet de remuer les levures et donner tout son caractère à la bière Pélican non filtrée. Pélican, bière du Nord non filtrée à 7,5 degrés. Pélican, retournez, savourez. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
À
tous ceux qui montrent une photo de leur chien ou de leur chat pour que vous disiez « Oh, il est mignon !» et pour qu'ils répondent « Il a 3 ans, là-bas c'était celui de mes voisins et... » Pardon Pascal, mais personne t'a demandé. On voulait juste être sympa. Intermarché rembourse 50% de vos achats sur le rayon alimentation chien et chat en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 avril, des 15 euros et jusqu'à 25 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Au printemps, vous et votre trottinette électrique, vous êtes inséparables. Vous avez même hâte d'être lundi pour aller au boulot avec.
C'est parti.
Mais on est dimanche là.
Pas grave, j'y vais quand même.
Pas étonnant, avec l'autonomie jusqu'à 55 km de la trottinette qu'on a sélectionnée chez Decathlon. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, la trottinette électrique Ninebot F2+, est à 499 euros au lieu de 599, soit 100 euros de réduction. Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis maintenant en compagnie d'Yves Léonard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, enseignant à Sciences Po Paris, membre du Centre d'Histoire de Sciences Po et spécialiste de l'histoire du Portugal contemporain. Vous venez de publier aux éditions Perrin une biographie d'Antonio de Oliveira Salazar. Elle s'appelle « Salazar, le dictateur énigmatique ». Une biographie inédite, puisque c'est la première en langue française sur ce dictateur portugais, méconnu et singulier. Nous allons en parler. Ce sont près de 450 pages, moins les notes, l'index et la bibliographie, sur un homme populaire qui a inspiré longtemps une forme de sagesse et de respect au Portugal, et en même temps une forme de prestige à l'étranger. Nous allons donc beaucoup parler de Salazar, tenter de comprendre avec vous qui était cet homme, si fantasmé et si craint, mais ayant aussi la chance de vous avoir 2 heures aujourd'hui avec nous, nous allons aussi, dans un second temps, évoquer dans le détail l'événement qui fête cette semaine ses 50 ans, la révolution des œillets. Ma première question, cher Yves, sera volontairement très ouverte et vous obligera à choisir un angle d'attaque. Qui était Antonio de Oliveira Salazar?
Ah ben c'est le dictateur, comme on dit, c'est-à-dire le dictateur du Portugal, majeur du XXe siècle, un homme qui a très fortement pesé sur le XXe siècle portugais, puisqu'il est resté au pouvoir 40 ans, ce qui est considérable à l'échelle humaine. Un homme, un dictateur très particulier, très singulier, énigmatique, pour reprendre le titre de l'ouvrage, mais surtout quelqu'un qui a suscité beaucoup de réactions, beaucoup d'admiration chez ses contemporains au Portugal et à l'étranger. Beaucoup, évidemment, de détestation légitime au regard du personnage et de ce qu'il a incarné. Et puis une postérité aussi sur laquelle il faudra revenir, qui est très particulière, 50 ans, un peu plus de 50 ans après sa mort. Donc c'est un homme très, très singulier, oui, sur lequel il faut essayer de porter un regard aujourd'hui à la fois distancié, informé, sourcé. Parce que c'est toujours la même chose, on ne peut pas vraiment vivre avec le passé si on n'essaye pas de comprendre celui-ci et de faire ce travail de mise à distance qui nous permet de vivre le présent et de construire l'avenir. Enfin, c'est assez classique, mais je pense que sur un personnage de cette nature, il faut essayer, autant que faire se peut, de prendre du recul et surtout de ne pas à la fois être victime d'un certain nombre de ces légendes qu'il a lui-même construites et sa propagande, et aussi essayer de comprendre, hein, c'est le métier de l'historien, comprendre, expliquer, et non pas juger, pour essayer de comprendre pourquoi ce personnage s'est maintenu. C'est quand même un critère force, presque 40, plus de 40 ans, et son régime un peu plus. Donc comment expliquer une telle longévité aussi?
Un personnage qui est resté une quarantaine d'années au pouvoir, et qui pourtant n'a pas imprimé dans l'histoire, contrairement à d'autres dictateurs de cette période, comme Hitler, Mussolini ou Franco. Pourquoi Salazar est-il inconnu au bataillon?
Alors, ça tient à plusieurs raisons. D'abord, traditionnellement, tout ce qui concerne relève du Portugal. Le Portugal est un pays qui suscite des passions aujourd'hui footballistiques, touristiques, et beaucoup de stéréotypes, on va dire, mais une connaissance approfondie de son histoire, qui est pourtant riche, passionnante, d'une grande densité. Force est de constater que c'est pas en général quelque chose qui est dans les automatismes, dans les références, dans les habitudes de citation, on va dire. On se tourne plus volontiers vers l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, bien évidemment, l'Angleterre, etc. Et donc, je pense que ça s'inscrit aussi dans cette dynamique. La deuxième chose, c'est que Salazar lui-même a beaucoup cultivé de son vivant cette, on parlait d'ambiguïté tout à l'heure, mais cette volonté d'être un peu masqué, d'être toujours s'abriter derrière un certain nombre de masques qu'il a construit lui-même, que d'autres ont construit pour lui. Bref, jouer de ce qu'on a appelé cette rhétorique de l'invisibilité. Un homme qui était à la fois très présent, très dominateur, très glaçant, mais qui jouait une partition, à la différence de ses alter-ego, notamment de l'entre-deux-guerres des années 1930, qui était dans l'exaltation des foules et des phénomènes de presque de transe collective, que lui, Salazar, refusait de faire pour plein de raisons et se maintenait toujours dans une espèce de second rideau, comme pour s'abriter derrière un certain nombre de, oui, de masques et de discours. Bref, ne pas être en première ligne. Et ça, je pense que ça a perduré, ça a suivi sa mort, et même y compris ce cimetière, cette tombe assez sobre pour quand on compare à d'autres dictateurs ou d'autres personnalités politiques de premier plan. Il a beaucoup joué de cette invisibilité. Et puis après, le troisième facteur explicatif, bien évidemment, c'est aussi la coupure qu'a représenté la révolution des œillets, c'est-à-dire ce 25 avril 1974, qui, à la différence d'autres types de transitions qui se font plus dans une espèce de négociation, de pacte entre les élites et avec aussi une volonté d'amnistie, bref, sinon un pacte de l'oubli. Là, dans le cas portugais, il y a une séparation claire entre un avant et un après. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, Salazar et son régime, mais Salazar en premier lieu, faisaient partie de ces personnalités dont on pouvait parler discrètement entre soi, évoquer avec un soupçon de, pour certains, de nostalgie, beaucoup d'épouvante, et en disant heureusement que ce passé-là a disparu, mais il ne faisait pas la une, si vous voulez, de l'actualité. Et les choses ont un peu évolué, donc je crois que voilà, il y a ces trois séries d'explications qui expliquent que Salazar, l'inconnu au bataillon, je dirais pas complètement l'inconnu au bataillon, mais une personnalité effectivement qui n'a pas suscité jusqu'à présent, ou assez peu, de travaux, notamment universitaires, qui permettent d'approcher la réalité de cet homme et la spécificité de son parcours personnel, de sa vision, de tous ces mythes qu'il a construits, y compris sur l'homme public et l'homme privé, cette séparation étroite qu'il avait créée. Bref, tout ça, il s'agit, je crois, le travail de l'historien, c'est de mettre un petit peu tout ça à nu, de s'intéresser aux vies parallèles, on peut dire, de Salazar.
Oui, et puis Salazar n'était pas un dictateur, contrairement à d'autres, vous l'aviez évoqué, bankable, disons, il était plutôt mauvais en public, c'était un excellent écrivain, un homme plutôt littéraire, il lisait beaucoup, il écrivait de beaux discours, mais c'était un homme de l'écrit, du face-à-face individuel, mais pas du tout du grand public.
Oui, il répugnait, hein, il le disait lui-même, il est pas à l'aise en public, et ses discours étaient faits pour être lus et pas pour être dits, et certainement pas pour être criés devant la foule. Donc il était très très emprunté, ce n'est pas... Et à l'ère des masses, justement, et notamment dans l'entre-deux-guerres, il savait pas utiliser les nouveaux médias, comme la radio. Il était totalement... sa voix était assez désagréable, assez au perché, et par ailleurs, il n'avait pas une facilité très grande pour s'exprimer. Par contre, dans le tête-à-tête, effectivement, le face-à-face, il excellait parce qu'il avait cette maîtrise de par sa formation, c'est-à-dire que c'est un homme qui maîtrisait toutes les règles traditionnelles de l'écriture et de la culture traditionnelle, et toutes les règles de la rhétorique. Bref, c'était un homme très construit intellectuellement, mais face à une population qui, pour l'essentiel, ne comprenait pas vraiment ce qu'il disait, ou autrement dit, écoutait en se disant c'est un homme sage et un homme instruit, mais c'est des discours qui souvent sont vraiment structurés et très précis, avec des mots choisis. C'est un homme qui écrit plutôt bien, qui écrit souvent lui-même d'ailleurs les discours qu'il va lire. Et donc ça, évidemment, c'est quand même à l'ère du champ magnétique des fascismes dans l'entre-deux-guerres. C'est quelque chose de très très singulier si on le compare à d'autres dictateurs. Donc c'est vrai qu'il avait cette haute conscience de lui-même, c'est-à-dire le sentiment que, de par ses études, de par sa formation académique, de par son métier d'universitaire, d'enseignant, eh bien, on lui devait le respect, l'admiration, parce qu'il était là, finalement, pour délivrer un discours, pour être le professeur de la nation, d'une certaine manière. Et ça, beaucoup d'autres dictateurs étaient sur des registres très, très différents, et même d'hommes publics, d'hommes politiques de premier plan à l'époque.
Oui, lui, qui est Salazar, qui est devenu professeur universitaire en 1916, et qui pourtant vient d'un milieu plutôt modeste, il disait avoir la chance d'être né pauvre.
Oui, alors ça fait partie aussi là des un peu de l'utilisation de la propagande et d'une image qu'il a voulu créer, parce que cette pauvreté, il vivait pas dans l'opulence pendant son enfance et sa jeunesse. Mais c'était pas non plus la pauvreté absolue, c'était pas Zola, c'était pas Germinal. Il était issu d'un milieu modeste, dans un milieu rural, comme l'était majoritairement la population portugaise de l'époque, mais avec un père qui était régisseur de grands domaines, de grands propriétaires terriens, donc qui vivait un peu mieux que le paysan de base qui aurait eu à cultiver son lopin de terre dans la difficulté et sans moyens. Il était au contact aussi d'une société aisée, hein, ces grands propriétaires terriens, qui vont quand même... Le propriétaire terrien en question et sa femme étaient les parrains et la marraine de Salazar à la naissance. Ce qui témoignait, voilà, c'était évidemment très paternaliste tout ça, mais ça témoignait aussi d'une timide ouverture. Et pour ce père, le père de Salazar, qui était donc ce régisseur, et puis il faisait des petites affaires localement, parce que la gare venait de s'implanter, la ligne de chemin de fer, donc il y avait un petit peu de, comment dire, dynamisme immobilier, il y avait quelques passages ici et là, ils avaient fait l'acquisition d'une extension pour faire un peu le commerce, pas touristique, mais d'héberger quelques autres de passage, un peu de restauration rapide, et puis un peu de promotion immobilière, on dirait. Donc, c'est un homme qui était très habile, le père de Salazar, très malin, et donc avec beaucoup d'entre-gens, et donc il s'en sortait honorablement. C'était pas riche, mais c'était pas le dénuement absolu. Et puis la meilleure preuve, c'est que dans une société où le portugais, à l'époque, à la fin du 19e, les trois quarts de la population étaient illettrés, Salazar ne l'était pas. Et ses sœurs non plus ont pu faire un cursus minimal, et même l'une d'entre elles est devenue institutrice. Ouais. Donc c'était quand même quelque chose d'assez particulier. Donc l'image de la... il le disait, je dois à la providence d'être né pauvre, c'est un abus de langage. Il n'est pas né dans un milieu aisé, et ça, c'est son parcours méritocratique qui lui a permis d'accéder à des responsabilités, faire ses études supérieures, ce qui était réservé à une petite élite aristocratique, nobiliaire, la haute bourgeoisie. Mais il n'en faisait pas partie, bien évidemment, mais pour autant, ce n'était pas non plus le petit chose, on va dire, sorti de nulle part.
Et puis une enfance entourée de femmes, une mère à qui il tenait énormément, et puis quatre sœurs.
Oui, c'est une société très féminine, finalement, qui l'entoure. Et lui-même raffole, semble-t-il, de cette compagnie des femmes. Il est assez effacé, il ne participe pas à ces jeux d'enfants classiques, un peu dans un modèle viriliste et tonique. Il se met toujours un petit peu à l'écart. Et même, sa mère craint que si on doit l'envoyer un peu au lycée, en quelque sorte, avec les autres, eh bien, ça se passe mal, parce qu'il pourrait se faire chahuter. Donc, il apprécie la compagnie, oui, de ses sœurs, et surtout de sa mère, oui, qu'il chérit par-dessus tout, et c'est réciproque, qui a une admiration très grande. Elle a certainement perçu très tôt le potentiel intellectuel de travail qu'avait ce fils, qui est le dernier, le petit dernier, hein, c'est-à-dire il a quatre sœurs aînées. Et donc, il est arrivé tard, hein, sa mère avait 44 ans quand il est né, ce qui pour l'époque est quand même très, très tardif. Et donc c'est cet homme qui va être choyé, hein, dans ce milieu féminin, très protégé par ses sœurs et surtout cette mère adorée.
Et jusqu'à la permutation de son propre nom, il aimait tellement sa mère qu'il choisit le nom de sa mère pour se faire appeler. Puisque normalement, il devrait s'appeler Antonio Salazar de Oliveira.
Oui, ça fait partie de ces anomalies. On le repère la première fois vers l'âge de 11 ans, 10-11 ans, dans des registres scolaires où cette permutation s'opère. Alors c'est difficile à expliquer à posteriori au vu de ces documents, mais de fait, il va passer à la postérité avec le patronyme de sa mère, inversant l'ordre des priorités. Ça traduit aussi une réalité, c'est-à-dire que cet homme avait cette admiration démesurée et un attachement démesuré pour sa mère, et aussi peut-être un pressentiment que Salazar, ça sonne mieux qu'Oliveira. C'est moins courant au Portugal, et que ça claque un peu mieux en termes de communication, on dirait aujourd'hui, peut-être a-t-il eu ce pressentiment. Non, je crois que c'est surtout parce qu'effectivement, il y avait ce lien fort et peut-être c'est dû aussi à une erreur graphologique ou d'enregistrement administratif à un moment par quelqu'un qui n'y a pas prêté attention aussi. Ça peut s'expliquer comme ça.
On disait de Salazar qu'il était le magicien, le technicien des finances. D'où lui vient cette réputation et est-elle vraie ?
Elle est en partie vraie. Magicien, il y a toujours ce côté le sauveur quoi, derrière. Hein. C'est quelqu'un qui va faire des tours extraordinaires qui surprennent tout le monde. La réalité est beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus pragmatique. Salazar, quand il fait ses études supérieures à Coimbra, il s'inscrit à la faculté de droit après avoir hésité, avoir envisagé de le faire à la faculté de lettres. Mmh. Faculté de droit, il y a pas de département à l'époque véritablement de sciences économiques, on va dire. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement ténu, d'extrêmement faible. Donc il va commencer parce qu'il doit rattraper son retard. Il est arrivé un peu tardivement, à 21 ans, à l'université. Donc il va mettre les bouchées doubles. Il va combler ses lacunes. Et en 3 ans, obtenir sa licence avec des notes extraordinaires et très vite se poser la question de la suite. Et la suite, comme il a fait le choix finalement de ne pas s'orienter alors qu'il avait fait ses études au petit séminaire et qu'il avait cette formation très solide et qu'on aurait pu imaginer pour des hommes de son rang, on va dire, c'est-à-dire du statut social qui est le sien, qui était certainement l'échappatoire possible, c'est-à-dire de promotion sociale à minima, en devenant prêtre, et peut-être même, certains caressaient l'idée qu'il pourrait devenir un évêque, enfin d'avoir une promotion au sein de la hiérarchie catholique. Il a fait le choix, en conscience, de s'orienter vers des études civiles. Et donc, à partir de ce moment-là, son choix, une fois qu'il l'a fait, il a très vite en tête de progresser, de se construire un cursus académique, de façon à pouvoir trouver un gagne-pain, hein, parce que c'est ça aussi dont il s'agit. Et la période est relativement propice. Elle est propice parce que Lisbonne vient d'être créée comme université, comme Porto, hein, en 1911, par la jeune République, qui cherche à desserrer le carcan et la mainmise de Coimbra sur tout le système d'enseignement supérieur, qui concerne vraiment des élites. Hein, c'est très très peu de monde. Et donc, à partir de ce moment-là, Salazar se pose la question de la suite. Et la question de la suite, avec ce système très élitiste, eh bien, c'est de devenir lui-même enseignant, professeur d'université. C'est un contexte assez propice parce qu'il y a un appel d'air avec les deux nouvelles universités qui se créent. Mmh. Et puis, il y a aussi le contexte de la guerre, des dysfonctionnements de la jeune république parlementaire. Et puis, très concrètement, il a repéré qu'un... Le professeur qui a en charge l'enseignement, on va dire, à minima, de l'économie politique, des finances publiques, comptabilité, c'est un homme respecté, qui a été d'ailleurs maire de Coimbra à un moment, mais qui est très souffrant et qui va d'ailleurs décéder en 1916. Et donc voilà, il y a un appel d'air, il y a une possibilité dont il va s'emparer très très vite, mais pour autant, il ne faut pas en faire, pour répondre à la question, le magicien des finances, ce n'est pas un spécialiste d'économétrie, de finances mathématiques poussées. C'est plutôt l'enseignement de l'économie comme on le dispense à l'époque, avec des principes relativement simples, sinon simplistes, de bons pères de famille, on dirait, et dont certains, d'ailleurs, en Europe, vont reprendre, ou du moins ont mené des politiques qui peuvent faire penser aux premières mesures prises par Salazar. Je pense à Poincaré en France en 1926, où on a des logiques assez similaires, c'est-à-dire couper dans la dépense, augmenter quelques recettes en créant un impôt spécifique, et puis surtout faire en sorte, parce que là c'est le technicien des finances qui parle, il a repéré que le système de perception des recettes fiscales est poreux. Bref, il y a de l'évasion, pas fiscale, mais en gros, beaucoup se servent au passage, parce qu'il y a un système très clientéliste, beaucoup de corruption, c'est pas né à ce moment-là. Mais la dictature militaire va le porter à son incandescence, et donc Salazar se rend compte que s'il veut rétablir l'équilibre des comptes publics, il doit appliquer ses recettes classiques, dépenses en diminution, qu'il le regarde scrupuleusement, des recettes qu'il essaye de faire augmenter avec des impositions nouvelles, et puis faire en sorte que le mode de perception et de contrôle, il va intensifier. C'est en cela qu'il est un technocrate aussi avant l'heure, c'est qu'il va intensifier les mesures de contrôle avec l'inspection des finances qu'il va renforcer, la Cour des comptes, bref, tous ces organismes qui sont faits pour donner un peu de structuration, un peu de...
D'ordre.
d'ordre financier, d'ordre juridique. Bref, c'est oui, effectivement, c'est l'homme de l'ordre, l'ordre dans les ménages, l'ordre dans les comptes publics.
Vous le disiez, Salazar a une haute conscience de lui-même, c'est un volcan d'ambition. Pourquoi était-il persuadé d'être le héros de l'Occident ? Héros, H accent aigu, R-A-U-T.
Il va le devenir progressivement, hein. C'est plutôt dans la dernière partie de son parcours qu'il va se poser en héros de l'Occident, au sens où, quand les vents contraires de l'histoire soufflent contre le Portugal, c'est-à-dire la période des années 60, la décolonisation, pour faire vite, il va considérer que le Portugal, eh bien, ne doit pas négocier, ne doit pas céder ses provinces d'outre-mer, les colonies, parce que sinon, dit-il, eh bien, le Portugal disparaîtra. Et il ajoute aussi, et c'est en cela qu'il se pose en héros de l'Occident, il ajoute que les Portugais ont été les premiers, ils seront peut-être les derniers, mais que c'est un mauvais service qu'ils rendraient à l'Occident et que les Occidentaux se rendent à eux-mêmes en ne considérant pas que Salazar a raison. C'est-à-dire qu'il défend une certaine conception de l'Occident, un Occident blanc, chrétien, etc., etc. Mmh. Et là, effectivement, il va se poser en héros. Mais avant d'en arriver là, il est d'abord, oui, totalement convaincu lui-même qu'il a des outils, des instruments à sa disposition pour rétablir l'ordre, rétablir la confiance, imposer sa marque, remettre, on dirait en France, remettre l'Église au centre du village, c'est-à-dire, en gros, faire en sorte que l'Église catholique, qui a été chahutée, qui a été interpellée par la République parlementaire, assez anticléricale au début, au moins dans les années 1911-1912, qu'elle puisse reprendre un petit peu l'ascendant. Et là, effectivement, c'est l'homme un petit peu de la situation. Il a le registre financier, le technicien des finances, il est l'homme du centre catholique, c'est-à-dire en gros, d'un micro-parti, d'un petit parti qui n'est pas un parti de masse, mais qui a derrière le soutien de la haute hiérarchie catholique. Et donc, c'est avec ces deux leviers-là qu'il va jouer avec une certaine habileté pour son ascension au pouvoir. Il n'est que ministre des Finances, hein, en 1928, pour s'imposer auprès des militaires. C'est pas rien, parce que les militaires le regardent pour beaucoup, à part Carmona, qui a une grande admiration, une proximité, on va dire. Mais ils se disent que cet homme, finalement, il n'est pas du Sérail, il n'est pas issu de la corporation des militaires. Et les militaires, au Portugal, comme en péninsule ibérique, et comme dans beaucoup de pays d'Europe à l'époque, considèrent cette prétorianisme qu'ils ont un rôle politique à jouer. Et ce que Salazar va leur faire comprendre, c'est que le rôle politique, c'est lui qui va le jouer. Et que, bon, ils ont fait le coup d'État, c'est bien, ils l'ont appelé aux finances, et maintenant, on siffle la fin de la récréation, en quelque sorte. Et c'est Salazar qui va habilement s'arranger pour devenir incontournable et être désigné par les militaires comme la personnalité clé du régime. Et ça, c'était pas joué d'avance, entre guillemets, en 1928. Les militaires, quand ils l'appellent en 1928, c'est très clairement pour remettre de l'ordre dans les comptes publics. Mais ils se disent, certains se disent du moins, le moment venu, un an et demi, deux ans, on va l'utiliser. Et puis, il retournera à l'université, à Coimbra. Il est très bien là-bas. C'est pas ce qui va se passer. Mais pas ce qui va se passer, parce que c'est lui qui est un petit peu à la manœuvre. Et puis, Carmona, qui le soutient, hein, le soutient et l'encourage d'une certaine manière dans son ascension politique. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui n'était pas, il faut toujours, pareil en histoire, il faut toujours se garder cette vision un peu téléologique. Comme on connaît la suite, on se dit, c'est une démarche implacable, méthodique. Oui, de son point de vue, elle est très méthodique. Mais il y a eu plusieurs options qui étaient possibles, notamment en 1929, 1930, eh bien de le remercier dans tous les sens du terme. Et ça n'a pas eu lieu. Il a continué, il a son ascension politique et au point de s'imposer dans les années 30, mais progressivement comme le dictateur, ou plutôt le chef.
Oui, c'est ça.
Le Portugal a besoin d'un chef. C'est un discours qui
un père de la nation.
Le père de la nation, mais au-delà, c'est ce sentiment qu'on observe dans toute l'Europe de l'entre-deux-guerres, ce pouvoir qui doit être dévolu à quelqu'un qui s'impose, dans la plupart des cas, par la force. Alors lui, la force, il la manie par le biais de sa police politique et d'une justice aux ordres, mais il n'a pas le décorum, il n'a pas les apparences de l'homme de la force. Il ne monte pas à cheval. Et il y a une symbolique très forte à l'époque de l'homme à cheval, encore, c'est la résurgence du 19e siècle, mais on en voit beaucoup. Vous regardez Piłsudski, vous regardez l'amiral Horthy, vous regardez tous ces hommes qui ont pris le pouvoir de manière assez musclée, on va dire, ici et là en Europe, Mussolini bien évidemment et d'autres. vous rendez compte qu'ils ont cette théâtralité, cette verticalité, cette symbolique du cheval et puis de l'uniforme. Salazar n'a jamais porté d'uniforme. Et ça, dans le contexte de l'Europe, du Portugal, des années 20, mais de l'Europe de l'entre-deux-guerres, ça peut apparaître comme quelque chose de pénalisant, un handicap qu'il va surmonter avec beaucoup d'habileté, de sinuosité, parce que c'est sa marque de fabrique. Hein, le plus court chemin d'un point à un autre n'est pas forcément la ligne droite. Hein, pour Salazar, on peut y arriver par différents biais. L'essentiel, c'est de ne jamais perdre l'objectif qu'on a en tête.
Salazar qui a toujours regardé les militaires avec méfiance et condescendance.
Oui, avec méfiance, avec condescendance, parce qu'il n'est pas du sérail. Et il considère, au Portugal comme ailleurs, quand il les observe, que des militaires, c'est tout juste bon à faire des coups d'État. Alors, le coup d'État, c'est sympa, c'est bien, surtout quand il faut renverser la République, parce que la République parlementaire, il ne la porte pas dans son cœur, loin de là. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Et qu'est-ce qu'on fait après? Là, c'est là que Salazar se dit, les militaires, ils sont bien gentils, mais ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas le niveau, quoi, en gros. Et notamment sur les aspects, on va dire, techniques, technocratiques, ils ne connaissent pas la méthode. Lui, il la connaît. Et donc, c'est cette vision, en plus, il a étudié hein, l'histoire du Portugal, l'histoire de l'Europe, mais il a observé que souvent, tous ces coups d'État, de révolution de palais, de militaires qui sont en situation, eh bien, ça tourne court. Y compris ce 19e siècle qu'il déteste.
Oui, l'odieux 19e.
Ce libéralisme politique ouais. Qui a sévi au Portugal et souvent a été repris et porté par des militaires. Saldanha et bien d'autres. Le duc de Saldanha, on se rend compte que pour Salazar, c'est vraiment pas des modèles, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc lui, il cherche à imposer sa marque et il sait très bien que c'est pas très naturel en péninsule ibérique et que les militaires ont toujours tendance à vouloir reprendre l'ascendant, reprendre la direction des opérations. Il va tout faire pour que ça ne se produise pas.
Vous disiez que Salazar ne portait pas dans son cœur le républicanisme, pourtant il n'abandonnera jamais le cadre républicain, même pendant sa dictature.
Oui, il n'abandonne pas le cadre républicain parce que finalement il s'en soucie comme de sa première chemise. C'est-à-dire que lui, ce qui lui importe, c'est surtout d'éviter le retour du libéralisme politique de la République parlementaire. Mmh. Oui. Teinté d'anticléricalisme, etc. Ça, c'est pas bien du tout. Ça, il faut vraiment écarter cette hypothèse. Après, sur la question de la nature république-monarchie, il est prudent parce que une monarchie, ça met un monarque en place. Un monarque, même si certains ont dit, c'est Régéla en tête, qu'il aurait rêvé d'être le premier ministre d'un monarque, d'un roi absolu. Bon, c'est vrai d'une certaine manière, mais c'est encore mieux quand on est le premier ministre absolu d'un système qui est totalement organisé autour de vous, quoi. Et ça, c'est plutôt ce qui a ses faveurs. Il se rend bien compte que l'idée monarchique lui-même, on lui a prêté des sentiments monarchiques, il a été inquiété en 1919, à la fin de la guerre, parce que beaucoup se sont dit, mais il professe des idées qui sont pas très républicaines et tout. Alors il s'en est défendu, il a été mis à pied pendant quelques semaines, puis innocenté. Bref, c'est quelque chose qui l'a marqué. Et par-dessus tout, en 1928-1930, au début des années 30 de son ascension politique, il ne veut surtout pas dévier de son objectif. Et la mort du souverain, enfin l'un des potentiels candidats à la restauration monarchique, même s'ils étaient deux en lice, mais enfin le roi Dom Manuel, le dernier roi du Portugal, meurt en Angleterre en juillet 1932. Et là, il considère que voilà, c'est vraiment pas le moment de mettre sur la table cette histoire de restauration. Et plusieurs fois, hein, en 1951 aussi, à la mort de Carmona, à plusieurs reprises, l'idée ressurgit de... Et puis avec ce que fait Franco, à ses portes. Hein, c'est-à-dire après Franco, qui va déjà laisser entendre assez précocement et prendre sous sa coupe le jeune Juan Carlos, quand il le fait revenir justement du Portugal et pour faire son éducation militaire et politique. On voit bien qu'on s'achemine vers cette solution d'une restauration monarchique en Espagne. Lui, il veut pas en entendre parler, c'est pas le sujet. Donc, le républicanisme, bon, c'est pas le républicanisme parlementaire, c'est pas le républicanisme de la Première République. Mais c'est le républicanisme que des hommes comme le général Carmona peuvent incarner, c'est-à-dire, on va dire, un républicanisme très conservateur. Et lui, encore plus conservateur que les très conservateurs. Mais pourquoi changer de cadre quand il suffit finalement de mettre en sommeil ce qu'a fait la dictature militaire, les institutions de la Première République, et puis de dire un beau jour, eh bien, on va travailler, nous travaillons à la rédaction d'une constitution qui s'appellera la constitution de l'État nouveau, l'État nouveau. Et puis c'est comme ça que les choses vont se mettre en place. Après, remettre un monarque dans cette dynamique, autant avoir un chef d'État qui soit complice et qu'on ait sous le coude et qu'on puisse contrôler assez facilement, ce qui sera assez largement le cas, après quelques foucas des divergences, avec Carmona, au moins jusqu'au début des années 1950.
Yves Léonard, nous allons pour le moment marquer une courte pause.
Agenda associative.
Sábado 27 de abril, a Associação Franco-Portuguesa Desportiva e Cultural de Vinavelrois festeja os 50 anos da Revolução dos Cravos no número 29 rue Maréchal Le Lyotet. A partir das 10 horas, emissão Espaço Aberto em direto da sala António Cardoso. Pelas 15h30, projeção do filme Capitães de Abril. A partir das 21h30, baile animado por Alexandre Silva. A Associação dos Portugueses Unidos com Todos de Soissy-sous-Montmorency organiza um festival de folclore com 5 grupos e um grupo de bombos a partir das 14 horas. Na Sala de Festas de Soissy, no número 16, Avenida do General de Gaulle. Domingo, a partir das 20h30, espetáculo com o humorista José Cruz. A Associação dos Pais e Trabalhadores Portugueses de Villiers-le-Bel organiza uma tarde de rusgas com 6 grupos no espaço Marcel Pagnol, no número 2, Rue Gounod. Possibilidade de jantar. Reservas pelo telefone 06-1522-8344 ou 06-2223-1592. A Associação Portuguesa Cultural e Social de Ponta Combo comemora um salto para a liberdade, o 50º aniversário da Revolução dos Cravos de 25 a 27 de Abril. A exposição de fotografias Murais de Abril de António de Paixão Esteves na sede da Associação 62 Avenida Lucien Brunet. Postais 25 de Abril da Universidade de Coimbra na sala Madame Sangène no Hôtel de Ville. Operações militares do 25 de Abril na Universidade de Coimbra, no Espaço da Câmara. Quinta-feira, às 19h30, projeção do filme Capitães de Abril, de Maria de Medeiros, em parceria com o Cine Club de Ponta Combo, no cinema Apollo, seguido de uma troca de ideias. Sexta-feira, concerto com a Coral Vento Sueste, de l'APCS, canções da peça de teatro Em Fim Abril, de Joaquim Pires, na sala Madame Sangène, no Hôtel de Ville, e fecho com o extrato da peça Em Fim Abril. Sábado, às 15h, intervenção dos alunos do Instituto Lusófono, 15h15, inauguração da Alei sobre o tema 25 de Abril. Pelas 15h45, conferência-debate com o escritor Mário Gomes com o seu romance Une Odyssée Portuguesa e a autora Madeleine Pereira apresenta a sua banda desenhada Borboleta. Às 18h, cerimónia oficial com o Sr. Embaixador. Inauguração da tela criada pela artista Natália Afonso para a comemoração dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Pelas 20h, concerto de encerramento com a artista Soalane e Teresa Carvalho.
Carrefour Énergie.
Quand vous me dites «
L'électricité, c'est trop cher !»
Je vous dis juste qu'avec Carrefour Énergie, votre électricité est 20% moins chère que les tarifs réglementés. Et on vous offre 50 euros en carte cadeau Carrefour. Et c'est à prix bloqué pendant un an sur energie.carrefour.fr. Carrefour Énergie, service opéré par Octopus Énergie par rapport au prix du kilowattheure du tarif réglementé au 1er février 2024, hors toute taxe. Voir conditions sur energie.carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vérissure, la protection adaptée à chacun.
C'est à mon tour de prendre soin de mes parents pour qu'ils soient en sécurité, seuls chez eux.
Ils ne seront jamais seuls avec le bouton SOS de l'alarme Vérissure. Nos agents réagissent 24 heures sur 24 et alertent les secours si besoin. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS.
Une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Top Fruit em Saint-Brice-aux-Forêts propõe dezenas de produtos ao preço mais baixo. Top Fruit, grande variedade de frutas e legumes frescos. Top Fruit em Saint-Brice-aux-Forêts, un rue du Petit Saint-Brice, aberto todos os dias.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher, même vous, Corentin.
Moi?
Oui, vous, car du 23 au 29 avril, pendant l'anniv Netto, le paquet 18 ou absorbant double épaisseur Netto est à seulement 2,53€ au lieu de 3,84€. De quoi essuyer toutes les bêtises de vos petits monstres.
2,53€ le paquet 18 ou absorbant double épaisseur Netto.
Les enfants, on est sauvés.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto. Pack de 6 rouleaux, 34% de remise immédiate. Plus d'infos sur netto.fr.
Au printemps, vous et votre trottinette électrique, vous êtes inséparables. Vous avez même hâte d'être lundi pour aller au boulot avec.
C'est parti.
Mais on est dimanche, là.
Pas
pas grave, j'y vais quand même.
Pas étonnant, avec l'autonomie jusqu'à 55 km de la trottinette qu'on a sélectionnée chez Decathlon. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, la trottinette électrique Ninebot F2+, est à 499€ au lieu de 599, soit 100€ de réduction. Decathlon, élue meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
À tous ceux qui, après le repas, se transformaient en artistes avec la cire des Babybel. Je vous présente un cow-boy qui est tout rouge. C'est conceptuel. Papa, regarde, un diplodocus, mais tout rouge. Et un nez de clown. Oui, bah c'est très rouge, quoi, surtout. Chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Babybel, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 avril, sur le moins cher des deux, Origine France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savazza et laissez-vous étonner par ces dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536€.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 1,29€.
L'artichaut ?
Eh oui patron, en ce moment chez Lidl, il est à 1,29€.
1,29€ l'artichaut ? Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et avec l'application Lidl Plus, il y a moins 15%, soit 1,10€ l'artichaut. Oh, ils sont archi chauds.
Et toi t'es archi ?
Archi mal, eh oui, je sais patron.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Merci d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis toujours en compagnie d'Yves Léonard, historien qui vient de publier aux éditions Perrin Salazar, le dictateur énigmatique, une biographie d'Antonio de Oliveira Salazar. Dès la fin des années 50, Yves, on questionne la succession de Salazar. Fatigue visible en public, migraines et insomnie s'emparent du dictateur et cela inquiète.
Oui, il y a même eu une première salve au début des années 1950, en 1951, quand Carmona, qui a été usé jusqu'à la corde, qui s'était représenté à l'élection en 1949, mais on sentait bien qu'il était fatigué, il décède, et là se pose la question, est-ce qu'on change un peu la nature du régime? Certains commencent à dire, mais voilà, on pourrait promouvoir Salazar au poste de chef de l'État, finalement. Et lui, évidemment, il va tout de suite prendre la mesure du danger et dire, c'est pas d'actualité. Donc la question, finalement, de la succession, une question taboue. Tabou que Salazar ne va jamais vouloir aborder frontalement, pour plein de raisons. Parce qu'il est dictateur, parce que préparer une succession, c'est quelque part envisager sa propre disparition et sa fin politique, donc il n'est pas question, et puis il considère que, d'une certaine manière, dans son fort intérieur, personne n'est à la hauteur pour lui succéder, à lui, compte tenu des qualités qu'il se prête. Donc en 1958, il y a surtout ce coup de semonce très grand, assez peu anticipé hein, finalement par Salazar, puisque l'élection de 1958, sinon devait être une formalité, mais il se posait surtout la question de ne pas faire continuer Cravero Lopes, le président en titre, qui avait été élu après la mort de Carmona. Et donc se pose la question de qui. Et qui, eh bien, est un homme qui va se mettre le pied dans la porte, comme on dit. Cet homme, c'est pas n'importe qui, c'est un général, c'est un général. Il y avait eu déjà des généraux, comme Norton de Matos, en 1949, qui avait tenté, fin 48, de se mettre en situation, mais bon, l'homme était plus âgé, un républicain... De vintage, on va dire, un peu marqué par son passé à la Première République. Et surtout, il avait pris la mesure que de la dangerosité, finalement, de l'exercice de se mettre en porte-à-faux. En 1958, Delgado dit « moi, j'y vais ». J'y vais.
Mais on
j'y
parle
vais.
De Humberto Delgado. Là.
Humberto Delgado, le général sans peur, comme on va le surnommer, parce que c'est un homme très courageux qui dit « mais... » En gros, il dit quoi? Il dit Salazar a fait son temps, il comprend plus rien. Lui, il l'a servi. Hein. Dans les années 30, en 1945, il était chef directeur de l'aviation civile, il a créé la compagnie aérienne nationale, la TAP. Bref, il a un passé aux côtés du régime de l'Estado Novo. Mais en 1958, du retour des États-Unis où il a été en poste comme attaché militaire à l'ambassade, et qu'il a vu comment ça fonctionnait aux États-Unis, avec une grande admiration pour les campagnes à l'américaine d'Eisenhower, également général, qui est le président des États-Unis. Bref, il s'est rendu compte que peut-être que cet homme, Salazar, eh bien, était d'une autre époque et avait vieilli. Il dira, il comprend plus rien à rien, il est complètement décalé par rapport à tous les grands sujets, les grands enjeux. Et donc, il se présente et il dit, mais moi, j'irai jusqu'au bout. Alors là, ça commence à interpeller. Et puis, il a cette fameuse phrase qu'il prononce début mai, quand il convoque la presse internationale, parce que la presse portugaise, elle est victime de la censure, donc c'est pas la peine de trop s'expliquer. La presse internationale qui est réunie dans un hôtel à Lisbonne, et là, il y a un journaliste français qui lui demande « Et si vous gagnez l'élection, qu'est-ce que vous faites de Salazar ?» Parce que c'est vraiment le nœud central. La Constitution de 1933, elle donne cette possibilité au chef de l'État. Il nomme et révoque le chef du gouvernement, le président du Conseil. Et ça, évidemment, Salazar l'avait laissé faire parce que tout ça était un petit peu orchestré, mais il sait, il y a cette épée de Damoclès, quand même. D'où la nécessité de mettre quelqu'un de complice, de proche, à la tête de l'État. Et donc Delgado dit, mais obviamente, comme il dit, mais évidemment, si je gagne, ben, je le vire, je le renvoie, quoi. Je le démissionne. Alors ça, évidemment, Salazar, quand il entend ce truc, il tombe déjà symboliquement pour la première fois de sa chaise, et il se dit, on va pas pouvoir continuer. Et à partir de ce moment-là, évidemment, la campagne de Delgado va prendre une autre tournure parce qu'il va être victime de tous les coups tordus que le régime peut orchestrer, d'autant plus que le Parti communiste clandestin, qui avait envisagé de présenter un candidat dans la clandestinité et la dangerosité maximale que ça signifie, annonce que finalement, ils vont soutenir la candidature du général Delgado. Alors ça, évidemment, pour le régime salazariste, c'est bien la preuve que Delgado, c'est l'homme de Moscou, c'est un rouge, c'est un communiste, ce qu'il n'est pas. Mais du coup, la campagne de Delgado va prendre une autre tonalité. Mais en 1958, donc, pour la première fois, il va perdre, bien évidemment, mais pour la première fois, le pouvoir personnel de Salazar
tremble.
Il y a eu de la résistance, il y a eu de l'opposition à Salazar avant, bien évidemment. Mais jamais au point de faire vaciller l'édifice. Et c'est vrai que 1958, on l'a souvent dit, c'est le terremoto, c'est le séisme, le tremblement de terre dans la vie politique, et dont l'ombre portée va se faire ressentir jusqu'aux années 1960, et même jusqu'à la révolution de 1974, parce que les capitaines auront en tête ce modèle, cet homme courageux, le général sans peur, qui, pour la première fois, s'est dressé au péril de sa vie, parce qu'après, il va...
Oui, il est assassiné en 1965.
Il va être assassiné par la police politique, très probablement, là, je me suis un peu penché sur le sujet, très probablement sur l'ordre direct de Salazar, même si celui-ci dira toujours qu'il ne l'a pas donné, que c'était quelque part stupide d'agir de la même manière, mais le commando qui va exécuter Delgado, c'est Lapide, c'est des agents de Lapide, et a commencé par son propre garde du corps, le photographe, Rosa Casaraco, qui est l'homme de main un petit peu de Salazar, et qui va être l'un des tueurs de Delgado à la frontière espagnole. Donc tout ça, c'est une tâche profonde hein, sur le régime. Salazar n'avait pas pardonné cette critique, affront. Cet affront qui lui avait été fait. Et évidemment, après, l'amiral Tormes, c'est un homme beaucoup plus terne, beaucoup plus lisse, beaucoup plus admiratif, évidemment, de Salazar, jusqu'au bout. Et il n'aura plus ce problème, Salazar, de son vivant, le problème de la succession, le problème du risque qui pourrait se poser le concernant. C'est finalement les problèmes de santé, les soucis de santé qui vont l'effacer, le rayer de la vie politique active. Mais pas un coup d'État, pas une élection, rien de tout ça, et pas l'opposition, pas la résistance, personne n'a réussi de son vivant à le renverser. Ce qui est un peu la marque de Frabic, et d'un dictateur très atypique, parce que la plupart des dictateurs ont fini, quelquefois de manière tragique, enfin, ont été éliminés physiquement, et puis d'autres, comme l'amiral Horthy ou autres, eh bien, ont été obligés, d'ailleurs, l'amiral Horthy a fini sa vie au Portugal en 1957, où il s'était réfugié depuis une dizaine d'années. Ce sont des parcours qui se finissent plutôt mal. Pour Salazar, il est mort pratiquement à son poste, c'est-à-dire que...
Oui, il meurt en 1970 et en pensant toujours être à la tête du Portugal. Personne n'osera jamais lui annoncer qu'il a été remplacé.
Il a cette illusion qui va perdurer. Personne va vouloir dissiper le doute, l'illusion. Et par des moments de lucidité, quand même, on se rend bien compte que lui-même dit « mais c'est pas bien ce qui m'arrive », etc. Mais il reste dans cette fiction, y compris symboliquement. Il est toujours à San Bento, là où il s'est installé en 1938, c'est-à-dire le petit palais de San Bento, qui est le lieu où siège, enfin le chef du gouvernement, le président, le premier ministre siège. Eh bien, il est toujours là. Caetano lui a permis finalement de rester dans ses meubles, si l'on peut dire. Et c'est là qu'il va mourir le 27 juillet 1970.
Dans 5 minutes, Yves Léonard, le Flash Info de midi avec notre journaliste Olivia Vage. Après, on continuera notre discussion, on continuera à parler du cas Salazar, à tracer l'itinéraire de ce dictateur énigmatique. C'est le titre de votre de la biographie que vous avez écrit aux éditions Perrin. Et nous allons commencer aussi à aborder dans un second temps l'événement qui fête cette semaine, dans deux jours très précisément, ses 50 ans, la révolution des œillets. Mais pour l'instant, pour nous accompagner jusqu'au Flash Info de midi, nous allons écouter un titre, Miguel Araújo, avec ce titre, La Vaille Sofia.
Sofia diz que o céu é mais azul do que aquele que se vê da janela. Só talvez seja mais para sul do que aquele que ensombra o norte dela. Sofia diz que o céu fica onde ela nunca está, e diz que onde ela está é só mais um lugar qualquer, outro lugar qualquer. Sentinela. E diz que bem que faz sinais de fumo, mas que o mundo não se fia nela. Sofia diz que o mar não é mar se não estiver ainda por navegar.
Rádio Alfa.
Il est midi, merci beaucoup d'être branché à Radio Alpha, la radio lusophone en France. On fait tout de suite un point sur l'actualité en langue portugaise avec Olivia Vaz. Muito boa tarde, Olivia.
Olá, muito boa tarde, Didi. Boa tarde a todos. E depois do presidente da Câmara de Béziers, o autarca Denis, quer também impor o recolher obrigatório para os adolescentes menores de 13 anos, quando não acompanhados por um adulto, o recolher obrigatório entre as 23 horas e as 6 da manhã, Cristian